Alors, on va partager une histoire biblique et je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, premier livre de Samuel, chapitre 17, et à partir du verset 1er, j'aimerais cet après-midi revenir avec vous sur ce qui est impossible. Parce que je veux croire que rien n'est impossible à Dieu et que, évidemment, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors vous me dites non, c'est pas possible, il y a des situations où on s'en sortira pas, c'est totalement impossible. On va voir ça ensemble. Voici en tous les cas une situation qui est évidemment totalement impossible à gérer. 1 Samuel chapitre 17 verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès-Damim et Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, et il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Je vais vous le lire dans une version, on va dire, plus récente, et on a traduit ces mesures qui ne sont pas, que l'on n'utilise pas en français et en France. Ça a été traduit autrement, vous allez mieux comprendre qui était ce Goliath. Un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant la cuirasse une 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, ce qui est tout au bout, la flèche, lui seul pesait près de 7 kilos tout au bout de la lance. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, verset 8, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons soumis. » Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez soumis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. C'est certainement arrivé à tout le monde de se trouver dans une situation impossible, totalement impossible, impossible d'avancer, impossible d'évoluer, impossible de se dégager sans frais. On est dans une situation où on est coincé, on s'en sortira pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? De quelle manière faut-il affronter les difficultés? On ne sait pas trop, on est passablement en difficulté. Et il est vrai que quelquefois, on s'est trouvé dans des circonstances où les obstacles étaient totalement infranchissables. D'une manière ou d'une autre, que vous le regardiez d'une manière ou d'une autre, vous vous dites là, je ne vais pas m'en sortir. Là, c'est totalement impossible. Alors je voudrais voir avec vous cet après-midi que rien n'est impossible parce que Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est encore capable aujourd'hui de faire des miracles. La preuve, c'est l'histoire de Goliath. Alors évidemment, on vous dit, et j'ai lu pour vous, que cet homme faisait à peu près 3 mètres. Je pense que vous avez du mal à vous imaginer ce que ça représente, 3 mètres. C'est un peu difficile. Hein. Moi, je fais qu'un mètre 68, donc on a du mal à imaginer. Alors, j'ai cherché dans le livre des records, quel est celui qui est considéré qui a été considéré comme l'homme le plus grand. Et je l'ai trouvé. Donc, on va vous montrer l'image, s'il te plaît. Il faisait 2,72 m. 2,72 m. Vous le voyez là. Vous le voyez, donc il est décédé à l'âge de 22 ans, insuffisance respiratoire. Il est né comme vous, hein, un enfant normal, 53 cm, 3,5 kg, sauf qu'après, il avait une maladie qui faisait qu'il était atteint de gigantisme. Et donc là, vous le voyez à l'âge adulte, imaginez un peu, il est dans une gare SNCF, il tient la pendule. La première image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Essayez de regarder la taille de la pendule, un petit peu comme celle qu'on a là. Regardez la main qui couvre la pendule. Vous voyez un peu la main? Bon, c'est à la mesure du bonhomme, évidemment. Hein. Vous le voyez à côté. Il est assis, alors, un fauteuil adapté. C'est sa maman qui est à côté. On a l'impression que c'est une naine tellement... Mais c'est vrai, hein. Et je ne sais pas si... Non, on le voit peut-être pas très bien, mais vous regardez sa main gauche, regardez un peu. La paluche que c'est quand même. Hein. Et tout à droite, il est avec son père, qui était un homme de taille normale. Donc, imaginez maintenant David, parce qu'il s'agit du roi David, qui n'est encore que bien jeune à cette époque-là. C'est lui, David, qui va entendre ce qui est en train de se passer là. Et lui, il va décider d'aller se battre contre le géant. Le géant Goliath faisait 3 mètres, plus grand que lui encore. Essayez de vous représenter le monsieur tout à droite qui représenterait David, aller se battre contre le géant d'à côté. Et là, vous comprenez mieux, me semble-t-il, quand la Bible nous dit que quand le Philistin est sorti et qu'il s'est adressé au peuple d'Israël et qu'il a cherché un adversaire, un seul, il dit, bon, je suis le Philistin, vous êtes l'armée de Saül, moi je veux un corps à corps. Comment vous faites, vous, corps à corps? Vous l'atteignez jamais, hein? Il est en ses bras, il s'avance. Comment vous faites? Donc on comprend mieux que quand il est venu pour mener bataille et chercher, défier en fait, chercher un homme en face de lui, il nous est dit que à ses paroles, tout le peuple fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Évidemment, vous êtes devant quelque chose d'impossible. Je vous mets au défi, chacun d'entre vous. Plus facile à dire qu'à faire. Là, il est en image, on ne le voit pas, puis il est gentil, cet homme-là. Mais imaginez un peu, vous avez un homme de guerre, vous avez quelqu'un qui a été entraîné à la guerre. Hier, on a un Français, Cocorico, qui a récupéré une médaille d'or. C'est son 8e titre mondial. C'est le fameux Teddy Riner en judo. Il fait 2,03 m, 140 kilos. Je pense que dans la rue, vous ne l'embêtez pas. Hein. Sauf si vous êtes armé. Sinon, vous ne l'embêtez pas. Hein. Donc, c'est sûr que face à quelqu'un qui est entraîné, et on demandait à cet homme, à ce judoka, comment il faisait pour s'entraîner. Écoutez bien, avant une compétition, avant un championnat, son entraînement, c'est de prendre dans l'équipe de France, avec ses collègues, il use, c'était le terme, il use 5 judokas en une heure. C'est-à-dire qu'il veut que les meilleurs du groupe, en dessous de lui évidemment, viennent combattre contre lui, c'est de l'entraînement, hein. Mais il les garde chacun 10 minutes et comme ils sont fatigués, il en veut un autre, bien frais. Et il va le fatiguer, il en veut un autre, encore bien frais. Et évidemment, c'est un homme. Il dit au fur et à mesure, je suis fatigué moi aussi, parce qu'en face, ils veulent le mettre par terre quand même, hein. Je suis fatigué, mais c'est pour aller chercher des ressources plus loin encore. Un entraînement de fer, un entraînement de fou. Cet homme, la Bible dit, ce fameux Goliath, que c'était un homme de guerre dès sa jeunesse. Imaginez un peu le colosse, mieux que le colosse de Rhodes. Imaginez le colosse que vous avez devant vous, quelqu'un qui, personne ne peut lui résister. Ben, les Philistins, ils étaient tranquilles, hein, avec un homme comme ça, la bataille est gagnée. Et vous allez voir avec moi, que finalement, face aux géants, c'est ce que l'on pourrait appeler des défis totalement impossibles. Dieu est capable de faire des miracles quand même. Quand vous imaginez qu'il portait sur le dos une cuirasse, une armure qui pesait 60 kilos, vous essayez de bouger, de vous déplacer avec ça ? Je me suis même imaginé à penser ce que représentait sa flèche de lance. Donc déjà la lance, quand vous avez des mains comme ça, vous pouvez avoir une lance qui est comme ça, hein. Pas de problème, vous la tenez bien en main, hein. Pas de problème. Imaginez une lance de bronze. Bon, le bronze, c'est pas léger, hein, c'est pas de l'aluminium, hein. Imaginez déjà la longueur de la lance. Donc, quand vous l'avez à portée de main, je pense que plus c'est long, plus c'est lourd au bras, hein. Et le bout, c'est déjà 7 kilos. Amusez-vous à prendre ne serait-ce qu'un pack de 6 bouteilles d'eau et tenez-le comme ça à bout de bras. Vous me dites combien de temps vous le tenez, hein. Rien que la flèche, 7 kilos au bout de la lance, qui est elle-même portée par le bras. Finalement, je me dis que celui que je plains le plus dans cette histoire, vous savez qui c'est ? C'est celui qui portait ses armes. Le pauvre homme qui était dédié à porter son bouclier. Il est comment le bouclier, à votre avis ? Moi, j'aurais pas voulu être là. On est dans une situation qui est hors norme. On a du mal à imaginer. Mais je veux qu'on se représente quand même ce que c'est. Parce que certains obstacles dans nos vies sont littéralement géants. Et certains obstacles font que, raisonnablement, on se dit on ne va pas s'en sortir, c'est totalement impossible. Alors je pense que là, dans cette histoire-là, on n'est plus à l'échelle humaine. Je pense qu'on est plutôt dans une dimension qui est autre. Ce n'est pas l'échelle humaine. Ce n'est pas demain que vous allez rencontrer, aujourd'hui, si vous croisez dans la rue quelqu'un qui fait plus de 2 mètres, ça impressionne quand même. Bon. Mais 2 mètres, je crois que le record actuel en vie, ça doit être un Indien, un Pakistanais. On doit être à 2 mètres 50, quelque chose comme ça, 2 mètres 50 et quelques. Mais 2 mètres 72, vous n'en avez jamais vu. Vous en rencontrerez peut-être jamais. Le fait est qu'on est dans une autre dimension. Et je voudrais vous montrer cet après-midi que vos problèmes sont tels qu'on n'est pas simplement dans une dimension humaine. Je crois qu'on est aussi dans une dimension spirituelle. Et que face à ces conflits, face à ces situations critiques, où on ne sait absolument pas comment on peut s'en sortir, il existe une délivrance possible, mais il faut qu'elle soit spirituelle à l'échelle de ce que représente la bataille, parce que humainement, c'est littéralement pas possible. Alors j'en viens à David, parce que l'histoire ne nous parle pas de lui, mais ça vient après. À partir du verset 12, on parle de David. David, qui est-il ? David, c'est un jeune homme qui est berger de formation et qui n'est pas du tout préparé à la guerre. Il n'a pas du tout envie de s'inscrire à Saint-Cyr, il n'a pas envie de faire une école militaire. Lui, c'est un berger. Jusqu'à présent, il a quel âge ? 17, 20 ans. Il s'est appliqué à travailler dans l'entreprise de son père. C'est le berger. C'est le petit dernier d'une longue lignée parce qu'il a 7 frères. Il n'est que le 8e. Donc, c'est le cadet de cette grande famille. Et dans le fond, il va monter pour prendre des nouvelles de ses frères sur le champ de bataille. Et voici ce que l'on trouve dans l'Écriture à partir du verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe, le père de David, dit à son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers, et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme son père le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Et tandis qu'il leur parlait, voici le Philistin, le géant, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Et évidemment, on s'est encore enfui. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tous les jours, l'armée se lève en disant, allez, on va au combat, on va à la bataille. Ils poussent des cris de guerre. Tous les jours, c'est le même scénario. Vous avez le géant qui sort et l'armée d'Israël se dégonfle. Littéralement, elle se dégonfle. Et il n'y en a pas un qui relève le défi et on repart tous dans le camp. On va se cacher, on va chercher un refuge quelque part. David arrive. L'attitude de David est quand même assez incroyable. Parce qu'il obéit à son père, vous l'avez vu, il va chercher des nouvelles comme son père le lui a demandé. Il trouve ses frères. Mais David, si c'est simplement un jeune homme, jeune garçon, pas du tout préparé à la guerre, il va entendre ce qui se passe là. Il va entendre le défi qui est lancé, etc. Et lui, ça le dérange profondément. Tout comme les autres, certainement. Mais ce qu'il y a d'incroyable, et on va y venir dans un moment, c'est que David, lui, quand il entend le géant maudire le peuple d'Israël, quand il entend le géant défier Israël, lui, il se dit, mais c'est pas possible. Il faut se débarrasser de ce géant. C'est un défi impossible. Il faut s'en débarrasser. Mais comment vous faites, vous? Comment vous faites pour vous débarrasser de quelqu'un qui fait 3 mètres? C'est une armoire à glace, c'est un homme de guerre, c'est un gladiateur. Comment vous faites? Qu'est-ce qu'il espère? S'en débarrasser? Et quand il en parlera aux uns aux autres, c'est la suite du texte qui nous le dit, les uns les autres vont lui dire, écoute, si tu gagnes, le roi Saül offre sa fille comme cadeau de victoire, de guerre, si vous voulez. Il deviendra le gendre du roi, celui qui prendra la victoire, etc. Mais ils vont quand même lui dire que, bon, jusqu'à présent, ça fait 40 jours, personne n'y a été. Et David comprend pas. David est choqué, étonné, tout étonné de ça, il se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a relevé le défi? Qu'est-ce qu'il espère, David? Se débarrasser du géant. Et quand il en parle aux uns aux autres, mais il faut l'éliminer, il faut s'en débarrasser, les autres ont dû lui dire, tu dois avoir un problème de vue, hein. Tu dois pas voir comme tout le monde, toi, hein. T'as oublié tes lunettes à la maison, hein. T'as vu qui c'est? Mais qu'est-ce qu'il voit, David? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Un géant. Il voit bien, hein. Il voit un géant comme tout le monde. Évidemment, il voit un géant lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça ne peut plus durer comme ça. Et face aux difficultés que vous avez, qui sont comme des montagnes, bien sûr, vous les voyez, les montagnes, et vous êtes comme l'armée, vous dites, courage, fuyons. Hein. Personne ne peut aller affronter ça. C'est impossible. C'est comme si on se présentait devant une plage et qu'il y ait eu un tremblement de terre, quelque chose, et que vous voyez une vague arriver de 15 mètres ou 20 mètres qui arrive à toute allure, un raz-de-marée, et vous dites, moi, je vais rester là, je vais affronter le raz-de-marée. Non, personne ne dira ça. On va s'enfuir. Lui, il voit la vague, il voit le géant, mais il ne veut pas s'enfuir. Et lui, il dit, mais il faut que ça s'arrête. Tous les jours, on ne va pas se faire insulter par cet homme-là, ce n'est pas possible. Pendant combien de temps allez-vous supporter vos galères? Pendant combien de temps allez-vous supporter vos difficultés? Pendant combien de temps allez-vous rester là en disant « c'est impossible, je m'en sortirai pas, de toute façon, je suis né pour souffrir et je mourrai dans cet état-là » Combien de temps allez-vous continuer à supporter ça? Moi, je ne crois pas du tout à la fatalité de la vie. Je crois aux épreuves de la vie, elles sont réelles, on ne peut pas échapper à cela, évidemment. Mais je ne crois pas du tout à la fatalité. Je ne crois pas qu'il existe des montagnes que l'on ne puisse pas franchir, parce que là, on n'est pas dans une dimension humaine, j'insiste. On est dans une dimension qui est autre. Et hormis la dimension humaine, il ne reste que la dimension spirituelle. Il n'existe rien entre les deux. Soit c'est humain, soit c'est invisible et c'est spirituel. Mais que ce soit dans un monde ou dans l'autre, celui qui est le chef, c'est Dieu. Celui qui dirige, c'est Dieu. Celui qui peut remporter les victoires, c'est encore Dieu. Cet homme, David, c'est un homme qui est rempli de foi. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose de très intéressant sur les différentes lunettes que l'on peut porter. Il y a des lunettes qui ont des verres noirs, d'autres qui ont des verres roses et d'autres qui ont des verres bleus. Je ne vous dis pas la suite, hein, les enfants vous l'expliqueront. Vous leur demanderez dans quelques semaines. Mais la réalité, c'est que des fois, on voit des choses, c'est un peu flou, c'est tellement grossissant qu'on se dit, mais c'est impossible, on va jamais être tiré d'affaire. David voit le géant, c'est sûr. Il voit que le géant est là. Il voit que cet homme est agressif. Il comprend qu'au corps à corps, si celui qui s'en va persuadé qu'il va perdre et que ça va être une boucherie, il sait qu'il condamne le peuple tout entier. Alors, qui va prendre la responsabilité de cela? Personne n'a envie d'y aller. Mais David, c'est un homme qui est rempli de foi. Il est rempli de foi. C'est pas un bénédictin, c'est pas un franciscain, c'est pas un religieux, c'est pas quelqu'un qui a passé sa jeunesse à méditer tout ce qui concernait Dieu. Il n'est pas spécifiquement attaché à ce côté très spirituel de la vie. C'est un homme. Mais c'est un homme qui croit que Dieu peut délivrer n'importe qui, tout homme, toute femme, qui le lui demanderait, qui lui ferait confiance. C'est quelqu'un qui est persuadé que de confier sa vie au Dieu créateur, finalement à ce Dieu qui a même créé les montagnes les plus hautes. Ça veut dire qu'il est au-dessus. C'est quelqu'un qui sait que s'il confie sa vie à celui qui est maître des cieux et de la terre, alors il balayera le géant et aucun obstacle ne l'empêchera d'avancer, ce David. Il est persuadé que Dieu le guidera, que Dieu le conduira. Alors David va dire, mais il faut que ça s'arrête, hein. Il faut tuer le géant. Alors le bruit va courir et le bruit va revenir au roi Saül. Le roi Saül invite David à s'approcher, à lui expliquer sa théorie. Et je lis avec vous dans 1 Samuel chapitre 17, verset 31. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce géant. » Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, vous allez voir tous les obstacles que David a rencontrés. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en arracher une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du géant comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le premier obstacle que David a rencontré, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est pas le Philistin, le géant, ce sont ses propres frères. Quand il arrive sur le champ de bataille, il va demander un petit peu des nouvelles de ses frères. Comment est-ce que vous allez? Papa m'a envoyé vers vous avec de quoi manger, etc. C'est le paquet cadeau, donc il donne la nourriture à ses frères. Et puis, quand il entend parler le géant, lui, il explique sa théorie. Il faut terrasser le géant, il faut lui couper la tête, il faut que ça s'arrête, etc. Et les frères vont entendre cela et ses frères vont se mettre en colère. L'aîné, notamment, va se mettre en colère. Et il va s'adresser à son jeune frère et il va lui dire « Pourquoi est-ce que tu es descendu ? Et pourquoi est-ce que tu as laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Ce n'est pas lui qui les a laissés, c'est son père qui lui a envoyé finalement cet ordre de mission. « Écoutez bien, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Premier obstacle, ses propres frères. Lui, il dit, « David, il faut qu'on se débarrasse du géant. » Et ses propres frères lui disent, espèce de prétentieux, vaniteux, tu te prends pour qui? Tu es qu'un orgueilleux, regarde, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es en train de dire que toi, tu vas terrasser le géant, regarde les autres, il n'y en a pas un capable d'aller au combat, mais tu te prends pour qui? Pauvre David, il n'a rien demandé, ça lui tombe dessus. Il n'a rien demandé, hein? Ça lui tombe dessus. Pourquoi? Est-ce que l'on vous a parlé de Dieu? et que l'on vous a dit que Dieu allait vous aider. Pourquoi ? Lorsque vous êtes rentré à la maison, vous en avez parlé avec des amis, avec des collègues, en disant on m'a parlé de Dieu et on m'a dit que Dieu pouvait m'aider. Pourquoi ? Est-ce qu'on vous a dit, mais tu te prends pour qui ? Tu crois que Dieu va t'aider ? Tu crois qu'il va avoir soin de toi ? Tu crois qu'il va s'occuper de toi ? Mais tu te prends pour qui ? Qui peut vous décourager comme ça ? Ne laissez personne vous décourager. Dieu vous aime et Dieu est capable de faire quelque chose pour vous cet après-midi. Ne laissez personne vous enlever cette promesse du cœur. Ce n'est pas une idée dans la tête, c'est une promesse dans le cœur. Ne laissez personne couper en fait cette belle promesse qui est en train de vous atteindre. Ne laissez personne vous traiter de prétentieux, de vaniteux parce que vous cherchez auprès de Dieu du secours. Je peux vous dire que les vrais prétentieux, les vrais orgueilleux, ce sont ceux qui ne veulent pas de Dieu. Ce sont eux, les vrais orgueilleux. Et si vous vous approchez de Dieu, Dieu vous bénira, Dieu vous fera du bien. Alors quand ses frères le prennent de haut comme cela, et quand son aîné lui dit « Je sais qui tu es un vaniteux orgueilleux, tu es malicieux, tu es venu voir un peu comment ça se passait à la guerre », il répond rien, mais il s'en va. Face à ceux qui vous diraient que ça ne sert à rien de s'attacher à Dieu, face à tous ceux qui vous diraient que vous perdez votre temps, que Dieu n'en a rien à faire de vous, qu'il ne s'occupera jamais de vous, faites comme David. David n'a pas insisté et il est allé plus loin. N'insistez pas, laissez-les parler. Il y a un obstacle à franchir, il y a un ennemi à terrasser, il y a une difficulté qu'il faut vaincre et aucun défi n'est impossible pour qui s'attend à Dieu. Et puis il va aller vers le roi, c'est le deuxième obstacle. Quand le roi Saül entend David lui expliquer que lui, il veut aller à la bataille, il le regarde et il lui dit « Mais David, tu es un enfant, tu es un enfant. » Saül, c'est un aguerri, Saül a peut-être quelques marques, quelques cicatrices, il s'est déjà battu, il a déjà été au front. David, non, c'est un jeune, il est naïf, il ne sait pas ce que c'est la guerre, il ne sait pas. Et même le roi lui dit, David, écoute, non, tu ne peux pas y aller, regarde, tu sors de l'adolescence, t'es un ado, tu ne peux pas aller te battre. C'est pas possible. J'aime beaucoup la remarque de David, la réponse de David. Parce qu'autant avec ses frères, il n'a pas insisté, autant là, il insiste. Il vend son projet. Il le vend, son projet. Hein. Il dit, écoute, Saül, je vais t'expliquer. Et on a lu ensemble le texte, le lion, l'ours. Alors tu penses bien, il est en train d'expliquer ça à Saül, tu penses bien que si le lion, je l'ai déchiré en deux, si l'ours, je l'ai assommé pour de bon, c'est pas le géant qui me fait peur. Quel courage! Il est tellement convaincant que Saül lui dit, d'accord, pas de problème, tu peux y aller. Je suis pas persuadé qu'il soit sûr que ça va marcher, mais quand même, tout le sort du pays est entre ses mains. Mais comme quoi, dans le cœur de David, le fait qu'il insiste montrer qu'il était persuadé que quelque chose était capable d'être fait. Alors il a insisté, malgré que Saül ne l'ait pas traité avec mépris, il a quand même traité avec condescendance. Vous voyez, Saül explique à David, écoute, moi je suis tout en haut, toi tu es tout en bas, je te dis que tu peux pas y aller, n'insiste pas. Et David dit, ben, peut-être que dans le royaume de Dieu, les choses sont inversées. Peut-être que même si on est tout petit, ça peut marcher. Et peut-être que même si on est tout en bas, Dieu peut nous donner la victoire encore. Et moi, je vous dis que c'est toujours comme ça que ça marche. Si vous lui faites confiance, si vous vous attendez à Dieu, Dieu va faire un miracle. Parce que ce n'est pas à cause de vous que vous verrez l'obstacle s'en aller, mais c'est parce que Dieu est puissant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul avait bien compris la chose quand il dira « Je suis faible ». Mais c'est précisément quand je suis faible que je suis fort, parce que Dieu, évidemment, guider ses pas et le conduisait. Troisième obstacle, c'est la méthode de Saül. Parce que Saül va dire à David, écoute, pas de problème, tu peux y aller, mais avant d'y aller, prends mon armure. On imagine qu'ils font peut-être pas la même taille, etc. Il n'est pas habitué, il n'a jamais porté d'armure de sa vie. Mais il n'arrive pas à marcher. La Bible dit qu'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et il se dit, mais si je vais comme ça face au géant, il va me ratatiner en un rien de temps. Je suis pas habile. Troisième obstacle, Saül lui demande d'utiliser sa méthode. Tu vas prendre mon arme, mon armure, tu vas prendre mon attirail et c'est comme ça que tu vas aller te battre. Alors il a bien essayé, mais visiblement ça n'a pas marché. Vous savez quelle est la méthode pour être exaucé par Dieu? Je vais vous en donner une seule. C'est comme McDo. Allez-y comme vous êtes. Comme vous êtes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un pèlerinage? C'est une armure que l'on est incapable de déplacer, qui n'est pas adaptée à ce qu'on est. Pourquoi est-ce qu'il faudrait répéter des pater et des Ave Maria à tour de bras? Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi est-ce qu'il faudrait donner beaucoup d'argent pour être exaucé? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se faire du mal, souffrir, être blessé, c'est-à-dire se meurtrir, faire une forme de sacrifice pour être exaucé? Non, il suffit d'ouvrir son cœur. Le livre des Psaumes dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi de mieux? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. En général, quand tout va bien, on peut paraître. Mais quand tout va mal, on est comme on est. Là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de façade. Tout est parti, on est comme on est. Quelquefois, la réalité est cruelle. Mais si la réalité est salutaire, parce que, eh bien, on est enfin avec un cœur ouvert, enfin avec un cœur entier, avec un cœur vrai, c'est certainement dans ces conditions-là que Dieu peut vous bénir. Rejetez toute proposition qui vous empêcherait d'y aller vous seul. Vous devez aller vous-même vers Dieu. Vous devez aller vous présenter devant lui. Vous devez lui dire « Seigneur, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes ». Vous devez lui dire « Seigneur, change ma vie, change mon existence, donne-moi la liberté s'il te plaît ». Vous devez y aller comme vous êtes et c'est comme ça que ça va marcher. Alors David va se débarrasser de l'armure de Saül et il va y aller avec ses propres armes. Comme il était berger, il avait pas un sac à dos, à l'époque ça n'existait pas, mais au moins une gibecière. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une fronde, c'était un instrument de guerre hein, pour tous les bergers de l'époque. Donc, il a récupéré quelques pierres dans un torrent, il les a mis dans sa gibecière, il est parti à la bataille avec simplement ses habits, donc pas d'armure, et juste une fronde et 5 pierres. Juste ça. Le dernier obstacle, c'est Goliath. C'est le géant, parce qu'il est toujours là, lui, hein. Il n'a pas disparu. Je vous lis le texte. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le géant dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ? Tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. » Aucun défi impossible à Dieu, impossible à celui qui croit. Le géant va se moquer de David, le géant va insulter David, il va le maudire, il va le menacer de mort. Mais autant David n'a pas insisté avec ses frères, autant il a insisté avec Saül, autant il a rejeté la proposition de Saül, autant là, il écoute. Même pas. Il écoute même pas les insultes. Parce qu'il est persuadé que la victoire est déjà en marche. Cet après-midi, ne vous laissez pas décourager par une petite voix qui viendrait vous dire « Mais arrête de croire pour rien. Ta vie, elle changera jamais. Arrête d'imaginer que ça va aller mieux. Arrête d'espérer que demain, les lendemains vont chanter. Oublie ça. Faites taire cette voix-là. Ne l'écoutez même pas. Le diable est un accusateur. Le diable est un piégeur. Le diable est un saboteur. Le diable, c'est votre ennemi. Et il cherche à vous détruire, à saper votre élan, à saper votre volonté de voir votre vie changer et surtout de voir la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. David n'a même pas écouté Goliath le géant, mais par contre, il lui a expliqué qu'est-ce qui allait se passer. David a la foi. La tactique de David, elle était simple. Il a gardé la foi et il s'est attendu à Dieu. Il a dit, tu vois, géant, géant Goliath, c'est pas moi qui va mourir aujourd'hui, c'est toi. C'est pas moi qui va être, et mon cadavre qui va être livré aux bêtes des champs qui vont me déchirer. C'est toi, je vais te couper la tête, tu vas mourir aujourd'hui. Et son explication est toute simple, très rationnelle, mais pour quelqu'un qui a la foi, très évidente, pour quelqu'un qui croit en Dieu. Et il dit, tu vois, tu es venu vers moi et tu m'as insulté au nom de tous tes dieux, de toutes tes idoles, de tous tes faux dieux. Mais en fait, ce n'est pas moi que tu as insulté, c'est le Dieu que je sers. Et le Dieu en qui je crois est capable de se défendre. Et un géant, même s'il faisait 5 mètres, 10 mètres, ça ne lui fait pas peur. Évidemment, pour un homme, tu es très impressionnant. Quand je te regarde, tu m'attraperais de ta main et tu m'écraserais comme ça. Mais en fait, ce n'est pas contre moi que tu t'es battu, c'est contre Dieu. Et là, les rôles sont inversés, le géant, ce n'est pas toi. Le géant est au ciel et le géant va t'abattre aujourd'hui. Alors, la Bible dit que dès que le Philistin s'est mis en marche, David a couru sur le champ de bataille, il a couru. Il a pris une pierre, il a armé sa fronde, ça peut faire mal, hein, et il a lancé la pierre, une seule pierre, a tapé le Philistin au front. La Bible dit que la pierre s'est même enfoncée dans le crâne du Philistin. Ben, ça l'a mis par terre. David est arrivé, il a pris l'épée du Philistin et il a tué cet homme. Il lui a coupé la tête, c'était terminé. C'est terminé. L'ennemi qui hurlait pendant 40 jours et qui maudissait Israël en disant « Je vais vous tuer, je vais vous écrabouiller, vous êtes esclaves, vous mourrez esclaves, etc. » Cette voix que l'on a entendue pendant 40 jours, on ne l'entendra plus jamais. Vous entendez ? Plus jamais. La tête a été coupée, c'est fini. On n'entendra plus jamais. Ça, c'est la tactique de David. Prendre les bonnes armes, y aller tel qu'il était, proclamer les vérités de Dieu, chercher une seule chose, à glorifier Dieu. Tu as insulté l'armée du Dieu vivant, mais Dieu est plus fort que toi, et courir vers la victoire, et il a fait en faisant usage de son arme. David a été jusqu'au bout, il n'a pas eu peur, et je vous encourage à aller jusqu'au bout cet après-midi. Vous pouvez voir Dieu couper la tête de votre ennemi, et le rendre muet à tout jamais. En conclusion, je dirais qu'il y a des défis qui nous paraissent totalement impossibles, tout simplement à cause du péché et de ses conséquences. Le péché vous rend esclave, le péché ruine votre existence, le péché vous détruit, le péché vous met mal à l'aise, le péché fait de vous un pauvre type, le péché vous enlève toute valeur, le péché noircit le tableau. Le péché vous rend misérable, le péché vous fait honte, et le péché fait que les autres se détournent de vous ou ils se moquent de vous. Comme Goliath, le géant a été vaincu, le géant a été détruit. Pourquoi ? Parce que il y avait un vainqueur, et ce vainqueur était au ciel. Aujourd'hui, vous avez un vainqueur qui est au ciel aussi. L'époque est contemporaine. Donc le temps de la bataille de David est lointaine pour nous et il parlait du Dieu créateur. Mais nous avons le privilège de connaître le Jésus rédempteur, le Jésus sauveur, celui qui délivre. Il y a 2000 ans de cela, si n'importe quel géant s'était présenté devant le Seigneur Jésus, il l'aurait abattu au simple son de sa voix, au simple mot de sa bouche, le géant aurait été terrassé. Eh bien ce Jésus est mort à la croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais il est ressuscité d'entre les morts, et aujourd'hui il est encore vivant. Vous pouvez regarder les obstacles sans aucune crainte. Je disais un jour que là où certains, devant Goliath le géant, voient un obstacle, d'autres voient des opportunités. Quand vous avez un géant devant vous, vous vous dites « aïe, 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 par où je vais passer ?» Et quand vous êtes un David, vous dites, il est tellement gros, grand et large que je ne vais pas le rater. C'est toute la différence. La foi. Ayez foi en Dieu. Il est le libérateur. Ayez foi en lui. Il peut vous délivrer. Il n'y a pas un seul obstacle. Aucun défi n'est impossible pour celui qui croit. Si vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, comme David l'a fait, vous sortirez vainqueur de cette bataille. Sinon, vous fuirez encore. Ça fait 40 jours, 40 ans que vous fuyez. Combien de temps vous allez faire semblant d'aller à la bataille et faire marche arrière parce que vous n'y arrivez pas? Combien de temps encore? C'est le temps de la liberté, c'est le temps de la délivrance. Le Seigneur est là pour vous bénir. On va prier pendant quelques instants et on va s'approcher de Dieu maintenant. On va s'incliner et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous sommes bien devant toi, nous sommes heureux d'être là, nous sommes heureux de te faire confiance, nous sommes heureux de nous attendre à toi, nous sommes heureux de louer ton nom, parce que nul n'est comme toi. Merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci de l'histoire que tu nous as laissée cet après-midi, parce qu'il existe des géants, et il existera toujours des géants, et il y a toujours des difficultés qui se poseront devant nous, et contre lesquelles il nous sera difficile de nous battre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous battre avec nos propres forces, mais nous voulons nous battre avec la foi et compter sur tes armes, sur ta force, sur ta puissance et surtout sur ton soutien et ta victoire. Je crois que tu es là pour délivrer celui qui est dans les difficultés. Seigneur, si ça faisait 40 jours et peut-être même 40 ans, toute une vie de galère et de malheur, moi je crois que tu es le libérateur. Je crois que tu délivres cet après-midi. Je voudrais que quelqu'un relève ce défi impossible cet après-midi. Qu'il crie à toi pour obtenir la victoire et que tu le délivres, c'est là ma prière. On va compter sur la fidélité de Dieu cet après-midi, on va lui demander de vous bénir. Est-ce qu'il y a parmi nous cet après-midi quelqu'un, des personnes qui ont besoin de grâce, qui ont besoin que ça change, qui ont besoin, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, parce que vous avez besoin d'une autre chance, parce que vous voulez la paix, l'espoir, l'amour, parce que vous avez besoin que votre vie soit affranchie de ces notes pesantes, de ces difficultés. Est-ce que vous ne voulez pas que le Seigneur agisse en votre faveur? On va prier, on va croire que Dieu va vous bénir cet après-midi. Faites comme David, n'écoutez pas ceux qui vous méprisent, ne prêtez pas attention à ceux qui vous critiquent, ne dites pas et ne rentrez pas dans le jeu de vos adversaires, n'essayez pas de vous justifier, mais plutôt faites comme David qui savait que Dieu était le libérateur. Et il l'a défendu, cette vérité-là, devant Saül. Il l'a défendu devant les généraux. Il l'a défendu. Mais cette vérité, vous pouvez la défendre. Jésus vous a fait une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos existe, il est pour vous. Le repos de Dieu, c'est la vérité. Le repos de Dieu, c'est la liberté. Il est là pour vous offrir cela. On veut croire qu'il va agir. Je m'adresse à vous qui avez besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais prier avec vous, je voudrais prier pour vous, je voudrais que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de faire une chose, un geste, que vous ayez juste une attitude. Levez votre main si vous voulez que l'on prie pour vous et on va prier pour vous. Des mains se lèvent, vous avez raison. Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Oui, Dieu va vous bénir, il va agir. Si vous la levez, c'est pour de bon, hein. C'est pour dire, je ne la lève pas pour la rabaisser dès que ça ira mieux, je me débrouillerai sans Dieu. Non, c'est pour vraiment lui donner la main en disant, sers-toi de moi, prends ma vie, change-la. Vous pouvez baisser votre main. Change-la ma vie, donne-moi la liberté, balaye les géants qui sont dans ma vie, débarrasse-moi de tout ce qui empoisonne mon existence, donne-moi la liberté. Alors vous avez levé la main, vous avez bien fait, on va prier maintenant. On va demander à Dieu sa grâce. On va lui demander de vous bénir. Je voudrais que tous ensemble, on se lève maintenant à notre place, tous ensemble. Et pendant qu'on va se tenir debout, on va prier. Et vous qui avez levé votre main, vous allez prier aussi du fond de votre cœur. Vous allez demander à Dieu sa grâce. Finalement, en vous tenant debout maintenant, c'est comme si vous aviez pris position. C'est comme si vous aviez dit, maintenant, je veux que ça change. J'ai fait quelque chose pour que ça change. Je me tiens debout et je réclame ta grâce. On va croire que Dieu va agir. Priez avec nous. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce pour ces bien-aimés qui s'attendent à toi. Plusieurs ont levé leurs mains. Et parce qu'ils réalisent, ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin de liberté. Ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin que leur vie change. Ils avaient besoin d'un avenir. Ils avaient besoin qu'une route leur soit ouverte et qu'elle ne soit pas barrée par un géant, barrée par une montagne, barrée par un défi impossible. Mais ils ont réalisé qu'il fallait que la voie s'ouvre, mais que la montagne soit balayée et que le géant soit terrassé et que la route soit praticable. Merci de les bénir. Merci de les visiter au nom de Jésus, de leur faire sentir ta présence et de leur donner la victoire. Délivre-les de leurs péchés. Délivre-les de leurs inquiétudes. Délivre-les de leurs malheurs. Délivre-les de la condamnation du péché. Oh, transporte-les dans le ciel et donne-leur ta paix. Tiens-les près de toi, garde-les près de toi. Et Seigneur, balaye là encore toutes les angoisses de leur vie. Et tu as détruit leur adversaire, le diable. Et tu leur as donné la victoire en donnant ta vie. Merci pour le salut qu'ils viennent d'acquérir en Jésus. Merci pour la liberté que tu leur donnes. Le pardon de leurs fautes qui devient vérité, réalité maintenant. Et puis pour tous ceux qui ont cherché la guérison, tu leur donnes cette guérison maintenant. Tu leur donnes un souffle nouveau, une vie nouvelle, et tu te glorifies, Seigneur. Amen.